Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Je suis Patrick, évidemment, et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Donc, un épisode un peu particulier, on va parler de Monorepo. Monorepo, Alex, ça te tient bien à cœur. Ces derniers temps, tu as travaillé sur un gros projet sur lequel tu as travaillé avec un Monorepo. Tu vas nous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Intéressant, évidemment. La question, en fait, du monorepo, elle est assez simple. En fait, c'est quand vous faites un projet, que vous soyez seul ou en équipe, en fait, à un moment donné, vous avez forcément un back, un front, peut-être plusieurs applications aussi, une documentation, etc. Et la question se pose assez rapidement, en fait, de comment je vais structurer tout ça. Est-ce que je fais plusieurs repos sur GitHub? Est-ce que j'en fais qu'un seul? Est-ce que je regroupe tout, etc. Et là, voilà, justement, on va parler de tout ça avec toi, Alex, pour... Voilà, se poser les bonnes questions et puis on va commencer peut-être par expliquer en gros ce que c'est un monorepo et qu'est-ce que ça apporte.
Ouais, carrément. Après, il faut revenir sur l'historique et comme tu l'as très bien dit, les projets deviennent de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus en fait d'instances. Avant on avait un seul site internet ou une seule app et tout était concentré. Maintenant on a les sites, on a le site marketing qui devient aussi de plus en plus complexe. On a l'app, on a l'app front potentiellement. Pareil pour la partie back. Est-ce que on vient faire que du microservice? On fait du monolithique, ok, mais tout ça, en fait, comment on l'architecture en termes de code et où est-ce qu'on centralise toutes ces informations-là? Surtout, ce qu'il faut, le gros avantage qu'on va pouvoir mettre en avant sur un monorepo, c'est la centralisation. L'idée, c'est on met tout dans une seule code base. Alors, la légende dit que chez Google, tout est centralisé sur un seul repo, ouais. Et que c'est du monorepo. Donc, si eux, ils ont réussi à faire tourner tous leurs services et tout leur applicatif sur un seul monorepo, pourquoi, en fait, nous, on pourrait pas le faire alors qu'on a des projets qui sont vachement moins intéressants, enfin, beaucoup plus petits en termes de scope.
Mais peut-être qu'ils étaient partis là-dessus au début et puis ils n'arrivent plus à en sortir, en fait.
Ça c'est possible.
C'est compliqué de sortir du monorepo, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tu as la plupart du temps, et souvent, mis à part si tu utilises un truc Laravel avec où tu as le front et le back, voilà, monolithique comme tu dis, tu as souvent un back déjà et un front séparé la plupart du temps sur le projet. Donc comment, voilà. Et des fois, des personnes différentes en fait qui travaillent sur le back et des personnes différentes qui travaillent sur le front, tu vois.
Exactement. Donc, un des premiers problèmes que tu vas avoir aussi, c'est quand tu vas vouloir avoir une équipe en remote et que tu vas builder, en fait, potentiellement, en fait, t'en as un qui va builder son applicatif, sauf qu'il ne va pas être dans la même version. Et donc, il y en a un qui va bosser d'un côté, ça ne va pas synchroniser avec les autres. Et donc, en termes de build, déjà, on va avoir un gros problème. Et aussi... Maintenant, toutes les features en fait, vont être souvent back et front. Donc, comment tu fais quand tu as deux applicatifs, mais ta feature, elle vient prendre du back et du front? Il faut que ta code base, tu vas jouer entre deux code base et il faut que ta feature, elle match sur tes deux branches de Git pour que, en fait, quand ton front et ton back, elles se synchronisent et qu'elles soient mises en production à partir de au même moment, parce que sinon, en fait, tu as ton back et ton front qui ne va pas être synchronisé. Donc, ça amène une autre complexité qui n'est pas insurmontable. Tu peux le faire.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu parles déjà de travailler en équipe. C'est vrai que... Comme tu dis, en fait, tu peux avoir des mecs en front qui vont devoir avoir, tu sais, ils vont demander des data au back. Donc, le dev back va travailler sur le back. Et c'est vrai que si tu as deux systèmes séparés, donc il faut que tu mettes à jour le back, il faut que tu sortes change d'onglet dans la console, tout ça. Alors que si tu as un monorepo, c'est vrai que tu vas faire juste un git pull, et ça te met tout à jour, tu relances, etc. Tu récupères les commits et tout. De ce côté-là, c'est déjà plus simple pour synchroniser le back et le front quand on n'a que ça.
Bah ouais, ouais. Après le gros truc c'est ça, hein. C'est juste une histoire d'organisation,
Ouais.
c'est un parti pris, mais c'est, en tout cas c'est des problèmes que le monorepo peut amener. Ça amène aussi autre chose, mais le gros la grosse idée sous-jacente c'est la centralisation de toutes les infos. On a toutes les infos au même endroit. Ça impose aussi à bien structurer tout ça. On va avoir justement des applicatifs, des packages. Donc, on va avoir, pour mettre un vrai exemple, notre applicatif, c'est notre site internet, notre front, notre back. Voilà, ça, c'est trois applis. Donc, c'est trois apps. Mais on va avoir des packages. Parce que aujourd'hui, si on fait du TypeScript ou un langage typé, potentiellement, on va utiliser des fichiers types dans le front et dans le back. Donc, ce qui veut dire que il va falloir qu'on récupère ces types ou on les construit ou qu'importe, mais sur le front et sur le back. Donc, ça crée potentiellement en fait une source d'erreur parce que le front et le back n'ont pas la même source. Et donc, avec un monorepo, on centralise tout sur un package qu'on va appeler type. Comme ça, en fait, tout le typage va se faire sur cette base. Et en fait, la source de données, c'est le package spécifique. Alors avant, on pouvait faire ça, et ça a été le business model pendant très longtemps de NPM d'ailleurs, de faire des packages privés. Et en fait, on avait nos dépendances. En fait, vu qu'on avait plusieurs applis, toutes les dépendances en fait, passaient par un tiers qui était en fait NPM. Et donc, on publiait nos packages privés et on les récupérait dans l'appli dans laquelle on en avait besoin. Mais là, maintenant, avec un monorepo, en fait, on vient builder nous-mêmes notre applicatif, notre petit package qu'on va utiliser dans la partie front, dans la partie back ou sur le site internet. Et comme ça, en fait, bah, ce package-là, il n'a pas besoin d'être buildé et publié sur NPM. Il est buildé une fois et il est au cœur du monorepo du projet. Et comme ça, en fait, s'il y a une évolution, on n'a pas besoin d'attendre de builder ce package, de le publier. Et en fait, bah, toutes les applicatifs en ont direct héritent en fait directement de cette nouvelle de ce nouveau package mis à jour.
Ouais, après avoir des packages à publier en privé, machin, tu complexifies vachement, quoi. Ça veut dire qu'il faut les mettre à jour. Enfin, c'est NPM install, machin, update et tout. Enfin, laisse tomber, quoi. C'est beaucoup plus simple, comme tu dis, quoi.
Eh
Tout
ben
centraliser. Après, à partir du moment où tu n'as qu'un seul projet, où tous tes projets sont réunis dans le monorepo, après, si tu as plusieurs projets, plusieurs monorepos, là, ça devient complexe, mais oui, c'est plus simple, comme tu dis. C'est clair. Que de publier à chaque fois.
ben ouais, et puis tu vas aussi avoir une centralisation au niveau de tes tests. En fait, quand tu lances tes tests, bah, il va falloir que tu testes ton front, ton back. Si tu veux faire du end-to-end, bah, en fait, il faut que tu testes aussi tes packages. Et donc, bah, tu vas tester ton front, ton back, ok, et la feature globale. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu builds tous tes applicatifs, il faut que tu sois sur les mêmes versions. Ainsi de suite, ça amène d'autant plus de problèmes. Et là, en fait, tout est centralisé. Donc, c'est plus facile, en fait, à être sûr qu'on ait les mêmes versions, surtout quand tu fais des nouvelles features sur lesquelles bah, tu as un impact front et back. Ça, c'est sur la partie, on va dire applicatif. Par contre, tu vas avoir une autre partie qui va être aussi juste de la config. En fait, tu vas pouvoir aussi partager, mutualiser et synchroniser toutes tes variables d'environnement. En fait, tes variables d'environnement sur ton back, ton front, parfois, en fait, elles sont un peu les mêmes, mais bah là, tu vas pouvoir les mettre à un seul même endroit et elles vont être ventilées sur n'importe quel applicatif ou package qui a besoin, en fait, de ces variables d'environnement. Mais surtout, tu vas aussi partager toutes tes linters. Par exemple, ta config de ESLint, bah, sur ton site et sur ton application front, potentiellement, tu veux que ça soit la même, ou de ton linter, de toutes tes règles de linter, bah, soit tu les publies quelque part et tu les récupères, soit bah, en fait, elles sont au cœur du projet et bah, toutes tes applicatifs ont la même règle. Et donc, tous tes développeurs qui ont accès qu'à un seul repo ont les mêmes règles pour ce projet-là. Et ce projet n'est plus un simple site, mais un package de sites qui hérite de la même règle. Et donc, tu écris une seule fois cette règle et elle est partagée sur tout l'applicatif. Donc, une règle pour les linters, ça va être super aussi intéressant parce que tu vas pouvoir aussi partager bah, ta config de TS, donc de TypeScript, par exemple. Si ton projet est en full JS, tu vas pouvoir partager toute ta config de TypeScript qui potentiellement en fait, peut être un peu compliqué ou touchy. Bah, pour être sûr en fait, qu'on est sur les mêmes types de versions, bah, pareil, tu vas pouvoir mutualiser en fait, cette configuration.
Mais ça, c'est alors, ouais, ce que tu dis, c'est pour l'instant, tu dis ça simplifie beaucoup de choses, c'est clair.
Ah ouais.
Enfin, tout ce que tu racontes, c'est évident, ça simplifie beaucoup les choses. Par contre, dans le cas où tu as les mêmes technos, parce que on peut rappeler qu'on peut avoir un monorepo avec différentes technos, ça c'est aussi possible. Dans ce cas, ça simplifie un peu moins les choses parce que si tu as un back en PHP, Laravel et puis le front en Next. Ou des choses comme ça, évidemment, c'est moins synchronisé, mais on peut aussi faire avec différentes technos, c'est tout à fait possible.
Ouais.
Et ça revient au même, de toute façon.
Absolument, en fait, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas avoir qu'un seul langage. Par contre, aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de faire du monorepo sur du multilangage. C'est possible, ouais. Ça existe. Alors, personnellement, je connais moins, j'ai moins d'expérience là-dessus. Par contre, je me dis que ça serait quand même possible de mutualiser plein de choses. Par exemple, t'as tes types de ton API qui sont en PHP dernière génération, t'as tous tes types, bah, tu veux récupérer tes types côté en JS parce que tu as fait une applicatif front en TS, en TypeScript, donc tout est typé. Bah, je pense que tu peux largement écrire un script qui va prendre en fait tes types de PHP et qui va générer à la volée tes types côté TypeScript. Et donc, au final, tu gardes cette même mentalité de synchronisation, de centralisation de la source. Et après, en fait, tu vas pouvoir exécuter des scripts pour faire ton pass d'un langage à l'autre. Voilà, ça implique une gymnastique qui est un petit peu plus complexe, soit. Dans l'idée, en fait, ton script, il peut faire la transition d'un type à un autre. Enfin, d'un langage typé à un autre. Voilà, c'est juste du script.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai vu passer un outil, il n'y a même pas une semaine, justement, qui transformait, je ne sais plus si ça transformait la description des tables en TypeScript, en fait. Je crois que c'est sur Laravel que j'ai vu passer ça, mais d'ailleurs, faut que je le retrouve, on pourra parler dans les news, mais donc comme quoi, c'est possible. Mais après, est-ce que le monorepo, tu vois, ne force pas un petit peu à choisir, à t'orienter plus sur des mêmes langages? Je pense que ça pousse un peu aussi là-dessus, si tu pars sur un monorepo, non, tu penses pas? Ou tu t'en fous
Je sais pas, tu vois, parce que je me dis si de toute façon t'as déjà un applicatif qui tourne sur Python, bah de toute façon tu vas pas dégager Python, enfin tu vois. Donc en fait, c'est tu vas plutôt essayer de si t'es dans une logique de monorepo, de centraliser, et ok, bah, de voir comment tu peux en fait construire autour de ça. Et l'idée, en fait, avant de se lancer dans un projet de monorepo, c'est de dire ok, qu'est-ce qui est mutualisable et surtout qu'est-ce qui est redondant, qu'est-ce que je fais à chaque fois sur mon front et sur mon back, qu'est-ce que je pourrais mutualiser pour gagner du temps. Mais toute cette phase de test, en fait, elle est assez puissante et assez énergivore. Toute cette phase de build qui est en amont de la phase de test, elle est assez redondante. Et donc, tu as plein d'outils aujourd'hui qui vont te permettre d'exécuter des tâches. Et toutes ces tâches-là, en fait, vont être faites de manière en parallèle, en fait. On va lancer différents types workers, on va dire, et tu vas pouvoir linter, tu vas pouvoir exécuter tes tests, tu vas pouvoir builder, tu vas builder ton package. Et il y a aussi une notion de cache qui va être super intéressante. C'est-à-dire qu'une fois que tu as buildé ton package, par exemple, toi, tu bosses et tu fais une petite librairie qui te permet de faire la synchronisation du type PHP au type TypeScript. Et bah, ce script-là, c'est un petit package où tu vas exécuter ton bout de code, sauf que quand toi, tu vas le publier, tu vas le committer, tu vas le build, en fait, moi, je vais pouvoir récupérer ce build-là parce qu'en fait, tu vas pouvoir mutualiser et synchroniser ton cache, en fait, de ton build. Ce qui t'évite, en fait, de rebuilder à chaque fois. Donc, en fait, tu viens, si tu as une équipe de 10, 20, 50 personnes, en fait, chacun va builder son applicatif ou son package sur lequel il est en train de bosser. Ça va être synchronisé sur un CDN classique. Et les autres, en fait, vont hériter de ce build-là, ce qui fait que quand ils vont lancer leur applicatif, ils ne vont pas être obligés de rebuilder le nouveau package qui est utilisé sous le capot, mais en fait, ils vont hériter tout de suite du package déjà buildé. Et donc, en termes de puissance et de rapidité, bah, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide.
Ouais, tu parles du cache. Alors, tu es déjà un petit peu dans les outils, on en parlera après, mais tu es déjà en avance. Mais oui, il y a des outils justement qui permettent, justement, qui sont spécifiques à ces monorepo. On en parlera dans la section outils. Est-ce que tu penses, alors moi, ça me fait penser à des expériences que j'ai déjà vues chez des clients, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on peut, à un moment donné, est-ce que tu penses qu'il faut, dès le début, partir en monorepo ou est-ce qu'on peut... je sais pas, au bout d'un an après, tu vois, tu as déjà lancé tes projets, tout ça, te dire, ah ben, on a fait une connerie, on aurait dû partir sur le même en monorepo et migrer au monorepo. Parce que, en fait, par expérience, j'ai vu des choses assez hallucinantes sur des gens qui, justement, regrettaient de pas avoir fait des monorepos. C'était du serverless, ils avaient des fonctions, Symfony, voilà. Et ce qu'ils avaient fait, en fait, c'était qu'ils avaient 8 ou 9 projets Symfony pour chaque fonction serverless, en fait. Ce qui fait qu'ils se retrouvaient à devoir mettre à jour les versions de Symfony, tout ça, PHP, 8 ou 9 fois à chaque fois. Et tout. Donc, c'est assez fou, quoi. Tu vois, et je me pose la question, en fait, est-ce que le monorepo, finalement, est-ce qu'il faut partir dès le début ou alors, finalement, on peut y venir un an, deux ans après quand on se rend compte qu'on a fait la connerie et que...
Alors, moi, je pense que... c'est une super bonne question. Je pense que plus tôt tu pars sur une archi monorepo, plus ça va être facile après. Après, c'est jamais perdu. Par exemple, là, sur le cas que tu me donnes, ouais, ils ont 8 repos Git avec 8 synfos.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça va.
c'est fou.
Et là, tu te dis, putain, mec, pourquoi tu peux pas mutualiser ? Tu vois ? Donc, là, en fait, sur ton exemple, l'utilisation d'un monorepo viendrait solutionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la migration, elle va peut-être être compliquée, soit, mais elle va amener une réelle plus-value. Parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est toutes les dépendances. Parce que là, tu abordes le fait qu'ils ont 8 instances avec 8 synfos, avec la synchronisation des versions de Symfony qui doit être la même. Alors, dans l'écosystème JavaScript, on connaît déjà en fait les workspaces, donc est-ce que c'est le monorepo qui a développé les workspaces ou c'est les workspaces qui ont développé les monorepos ? Ça, c'est l'œuf ou la poule. Ça, je pourrais pas dire. J'en sais strictement rien. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, en fait, tous ces gestionnaires de packages en fait, gèrent déjà les monorepos de manière assez facile et tu peux en fait synchroniser tes versions. Maintenant, alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis plutôt adepte de PNPM. Et, en fait, aujourd'hui, tu as une possibilité d'avoir un catalogue où tu dis, bah, moi, dans toutes les versions de je veux utiliser Nuxt ou Redis, machin client, je vais prendre telle version. Et toutes mes applicatifs, en fait, vont être synchronisés sur cette version-là. Ce qui te facilite la vie mais, de ma boule pour éviter d'avoir à faire la mise à jour et de l'enfer que tu viens d'évoquer en disant, ouais, 8 instances de Symfo à mettre à jour, tu vas complètement mais te tirer une balle quoi. Donc ça marche pour les dépendances, mais ça va marcher pour les types, ça va marcher pour les linters, ça va marcher pour les helpers, tu sais, les petites fonctions en fait que tu vas utiliser un peu partout. Je pense par exemple à un formatage des dates. Un truc, mais c'est basique. Mais tu veux toujours formater les dates de la même manière. Et sur ton site internet et sur ton application front, bah, tu veux que la date de la publication de ton blog, elle soit formatée comme ça. Bon, et bah, ce formatage des dates, au lieu de le mettre deux fois à deux endroits, tu vas le mettre à un seul endroit et tu vas pouvoir le synchroniser automatiquement. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir en fait utiliser cette mutualisation et tu vas centraliser tous les pouvoirs quoi. Donc, ouais. Pour ton histoire de Symfo, ça serait tellement plus facile.
C'est clair. Un seul composeur, un seul Symfony, et puis après, il faut gérer un peu la gestion, les routes, quoi, en fonction de l'API. Mais tu fais bien de partir des. Parce qu'en fait, on est d'accord que quand tu fais un namespace avec un PNPM, n'importe quoi, tes dépendances, elles sont chargées qu'une fois. C'est-à-dire que si tu as plusieurs projets, enfin, si tu as plusieurs choses qui utilisent Vue, ça sera chargé centralement Vue et partagé entre les projets. Il ne va pas charger un Vue à chaque projet, on est d'accord. Hein. C'est ça le concept du namespace.
Ouais, après, en fait, ton workspace. En fait, tu vas. Dans ton PNPM, c'est juste au moment de ton dev, en fait. Après, au niveau de ton build, bah, de toute façon, tu vas construire ton applicatif et ton applicatif, il va être isolé. Après, est-ce que tu veux dockeriser le truc ou pas ? Ça, c'est pas le problème. Mais c'est juste au niveau de ton dev, tu vas centraliser toutes les informations. Donc, de toute façon, on est bien d'accord que les monorepos, c'est que dans l'univers du dev. Parce qu'une fois qu'on est en prod, bah, c'est l'instance de l'applicatif qui vit sa vie toute seule. Par contre, c'est toute l'expérience et la DX, la développeur expérience de comment je récupère les infos, comment je récupère les configs, comment je récupère les variables d'environnement, comment j'exécute mes tests, est-ce que je suis sûr que tous mes tests ont récupéré les bonnes versions pour être sûr que ça soit bon. Tu vois, il y a toute cette partie de test qui, moi, je trouve, en fait, est ultra, ultra importante et qui va te faciliter, en fait, bah, ton déploiement continu parce que, en fait, tout est centralisé au même endroit, quoi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile.
Ouais, l'expérience développeur, de toute façon, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, on est des devs. C'est un podcast pour les devs. Et tu vois, pour revenir au truc Symfony, quand tu as 8 ou 9... repo à mettre à jour, t'as l'impression de... Bah, c'est déjà pour le dev, c'est super... Enfin, ça apporte aucune valeur, en fait, comme travail, parce que tu fais 9 fois la même chose, en fait. Donc, c'est clair que... Ouais. L'expérience de développeur est la plus importante.
Et bien, après, donc, pour répondre de manière un peu plus catégorique, plus tôt tu peux partir sur un monorepo, mieux c'est. Mais ça veut dire que t'as une vision très claire de quelles sont toutes les technos que tu vas utiliser, quelles sont aussi l'évolution du projet. Ok, là, je vais faire du mono-langage, plusieurs frameworks, mais je vais rester sur un seul même langage. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Voilà, c'est pas... Bon, bah, tu pars sur un monorepo, qu'est-ce que ça m'amène, quelles sont les contraintes, tu vois. Là, on a plutôt, et je suis plutôt emballé par l'idée du monorepo. Je vais pas mentir. Hein. Ouais. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a une centralisation des pouvoirs et donc il y a une concentration d'informations tout au même endroit. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut super bien structurer tous tes dossiers, ton arborescence de dossiers, toutes tes structures, il faut qu'elles soient vraiment super clean. Sinon, c'est un bordel monstre parce que pour le coup, tu as tout à l'intérieur. Donc, ouais. Ce qui veut dire que tu dois vraiment avoir une rigueur en disant ça, il faut que ça soit au bon endroit et tout. Donc, ça impose, en fait, ça implique ça. Il y a aussi quelque chose qui, en termes de sécurité, si tu fais monter quelqu'un sur le projet, potentiellement, il a accès à toute la code base. Donc, ça veut dire aussi que... alors, c'est un avantage, parce que pour lancer un environnement de dev pour faire un onboarding, il a qu'un seul repo, il récupère tout ce monorepo, il lance les bonnes commandes, tu peux largement synchroniser ton instance de back, ton instance de front qui se lance en même temps et donc ça communique ensemble. Donc tout ça, en fait, toutes tes tâches, tu vas pouvoir les automatiser, c'est super, tu peux tout synchroniser, parfait. Par contre, la personne qui arrive et qui est là pour 3 mois, il a accès à toute la code base. Est-ce qu'en termes de sécurité, tout ça, c'est un élément à prendre en compte. On ne va pas parler des variables d'environnement, mais c'est un sujet aussi. Là, pour le coup, je pense qu'on pourra faire un épisode dédié sur les variables d'environnement ou comment on peut en fait sécuriser un peu tout l'applicatif et pour éviter d'avoir des leaks de variables d'environnement. Mais voilà, c'est un autre sujet. Mais par contre, ça veut dire aussi que quand tu vas coder, tu vas être obligé en fait de dire « Ok, ça, potentiellement, je vais en avoir besoin sur telle appli. Bon, je ne vais pas le coder en dur une seule fois. » Dans une seule appli, je vais le mettre dans un dossier à part et je vais pouvoir le mutualiser. Et alors, ça, c'est mon process et ça vaut ce que ça vaut. C'est pas la messe, on est bien d'accord. Mais moi, je le code une fois dans l'applicatif et quand j'en ai besoin dans un deuxième, c'est à ce moment-là que j'extrais ce code, je le refacto et je le mutualise pour le donner accessible à 2, 3, 4, 5, 6 applicatifs. Et comme ça, ce bout de code, en fait, il est codé une fois en dur. Après, je le mutualise je le rends accessible à tout le monde, ce qui t'évite en fait de faire de l'over-optimisation. Parce que c'est le danger, en fait, quand tu arrives sur du monorepo, c'est que tu dis, ça potentiellement, en fait, je pourrais en avoir besoin, donc je vais le rendre totalement générique et comme ça, n'importe quel applicatif pourra l'appeler. Sauf que tu ne sais pas si tu vas en avoir besoin. Donc, tu le mutualises et tu le rends accessible à tous et tu le rends générique au moment où tu en as besoin pour la deuxième fois. La première fois, tu le fais normal et la deuxième fois, tu le codes et tu le rends de manière...
Franchement, un dev qui refactorise pas son code, c'est pas possible. En fait, t'es obligé de repasser une fois, deux fois, deux fois, trois fois dessus. Enfin, sinon, il y a un problème. Si tu refactorises jamais ton code, c'est qu'il y a un problème. Ou alors t'es excellent et tu fais tout du premier coup. Mais j'y crois pas. En fait, pour revenir sur les variables d'environnement, généralement, t'as plutôt des variables d'environnement de dev ou de staging, des trucs comme ça. Donc les variables de prod, tu les mets pas trop publiques ou elles sont souvent sur le truc qui déploie tout ça. Donc à ce niveau-là, normalement, ou alors si vraiment tu n'as que des variables d'environnement de production, c'est qu'il y a un problème. Donc généralement, ça ne pose pas trop de soucis, c'est des variables vraiment de test et tout ça. Et puis, tu disais, c'est vrai que si tu as un stagiaire qui vient, qui a accès à tout le repo, tout ça, c'est vrai qu'il y a des risques. Après, faut faire confiance aussi. Par contre, ce qui est hyper primordial à mettre en place, en fait, c'est la revue de code. En fait. Rien n'est poussé en prod ou quoi que ce soit sans revue de code. Rien n'est committé, enfin, qui n'est émergé sans revue de code. Pour vérifier qu'il travaille bien sur ce qu'il doit faire et pas partir sur le bac alors qu'il ne doit pas y travailler, etc. Il faut de la rigueur au niveau de l'équipe, tu vois. C'est...
Bien sûr. Mais comment tu fais quand tu as un dev qui fait une feature et il est sur deux repos différents, un sur le back, là, un sur le front, tu vois. Et parce que, ok, si tu as deux équipes, il va falloir synchroniser tout ça. Mais si tu as une petite équipe, t'as un mec qui va faire du front et t'as un mec qui et c'est le mec qui va faire du front qui va faire aussi du back. Et comment tu fais pour faire ta review de ton code sur deux code bases différentes?
Ça complique. Ouais, c'est pour ça que pour le coup le monorepo est plus simple. T'as qu'une seule review à faire sur un seul repo. Oui, c'est clair, ça simplifie. Ouais. Mais souvent, c'est le même. Si c'est du JS, des deux côtés, back front, t'as souvent les gars qui font le back et le front puisque c'est le même langage. Donc et puis les petites équipes quoi. Mais ça c'est c'est la complication des faut structurer les revues de code tout ça et ça prend des fois plus de temps à dev. C'est sûr qu'on push, on va déployer moins vite, mais en même temps on déploie, c'est propre quoi.
Carrément, et pour le coup tous les outils, on va peut-être commencer à aborder les outils, mais tous les outils en fait de monorepo ne sont pas orientés multilangage. Et ça c'est déjà avant de partir, oh, putain, il faut faire du monorepo parce que c'est la hype. On peut peut-être parler de la hype, mais c'est quelque chose que je regrette dans notre métier où en fait on est vachement influencé par le marketing, par tout ça, par les podcasts, par les deux blaireaux dans leur chambre qui sont en train de prendre le micro. Mais pour le coup, c'est vachement. T'as vachement une hype et malheureusement en fait toutes les technos ne sont pas intéressantes et est-ce que ça fit avec mon projet, c'est prendre le temps de dire ok, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, quels sont les inconvénients à faire ça. Et c'est sûr que quand t'es sur du monolangage, c'est beaucoup plus facile de faire du monorepo. C'est clair et donc oui, ça sera plus facile en faire du JS parce que avec ton JS, potentiellement, tu vas faire ton front, tu vas faire ton back, tout va être poussé. Mais tu peux mettre aussi tes Docker Compose directement si tu utilises une techno. Ouais. Tu vas tout centraliser dessus et tu as ta petite commande qui va popper tout et tu as ton environnement de dev.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais ça permet aussi de centraliser tout ce qui est Docker en fait, tout le fichier Docker, etc. En fait. Au lieu d'en avoir plusieurs, t'as qu'un seul fichier, enfin un seul truc Docker, et tu lances ton Docker et ça va gérer les deux. Même si t'es multi-langage, ça va gérer un PHP, un JS, même Docker, etc. Donc à ce niveau-là, t'as aussi un gros avantage.
Carrément.
Et sans parler de la question du poids au niveau de ta machine de dev. Parce que d'avoir un seul Docker, une seule image, c'est beaucoup plus light que d'avoir plusieurs. Tu vois, tu as plusieurs repos avec plusieurs Docker, etc. Là, en plus, il faut les lancer, etc. Tu vois, ça complique beaucoup les choses à ce niveau-là. Il n'y a que des avantages, en fait, depuis tout à l'heure.
Non. Après, je pense que c'est là aussi où on va tomber dans peut-être le dogme et la philosophie. En fait, il y a chez les devs, tu vas avoir différentes philosophies où ils vont aborder le problème différemment. Moi, j'y vois un intérêt sur des gros projets pour les faire évoluer dans le temps, pour éviter une sorte de centralisation des pouvoirs. Moi, ça me plaît assez. Par contre, il y a des gens qui sont omnibulés par la sécurité et ils veulent découper tout leur applicatif pour éviter qu'une équipe de dev ou un dev a tous les pouvoirs. Voilà, parce que c'est leur prisme à eux et c'est leur dogme à eux, c'est leur philosophie. Et donc, à ce moment-là, ça ne pourra pas fitter, tu vois.
C'est clair.
Je vois, il y a eu vachement de haters contre les monorepos pendant une période parce que peut-être la techno n'était pas prête et il y avait plus d'inconvénients que de solutions. Tu vois, et aujourd'hui ça a évolué. Moi, pendant très longtemps, je te le dis, je ne voyais pas l'intérêt. je ne voyais pas l'intérêt. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi, c'est pourquoi. et au final, en fait, bah, plus tu évolues et plus tu en bien ou en mal, c'est pas là. En fait, tu changes ta vision et tu dis, OK, peut-être, qu'est-ce que ça m'amène?
Ouais, mais c'est parce que tant que tu n'as pas été confronté à une problématique de gros projet, en fait, avec plusieurs trucs, le back, le front, la doc, etc., ou peut-être même plusieurs applications, tant que tu n'as pas été confronté à te poser la question comment je vais structurer ça, bah, tu ne vois pas l'intérêt, en fait, je pense. Après, pour revenir, tu vois, ce que tu disais, ceux qui sont sécurité, machin, tout ça, après, c'est encore autre chose parce que ça va être... C'est plus une politique de la boîte. Je sais pas si t'as déjà travaillé avec des mecs qui font des API, tout ça, machin. Des fois, moi, j'ai des clients qui utilisent des API d'autres entreprises. Et tu demandes de rajouter un truc sur l'API, les mecs peuvent mettre jusqu'à un mois pour déployer, tu vois. Pour dire, alors... Donc eux, déjà, ils ont déjà d'autres problèmes à gérer, tu vois. Ils sont tellement lents dans le déploiement, etc. Valider les données, machin, avant de pouvoir déployer un truc en prod. C'est sûr que le monorepo, ils en sont encore loin, quoi.
Ouais, après, c'est leur process à...
C'est des process hyper complexes et tout. Enfin, ouais,
bien sûr.
Après, la flexibilité.
Et tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas aussi abordé, mais pour toute la partie design, en fait, si tu as des composants type Storyblock, c'est ça que tu utilises, toi, ouais. Storyblock
enfin, Storybook.
Storybook, excuse-moi. Storybook, bah, en fait... ton monorepo, en fait, il a un dossier design. Et en fait, dedans, tu as toutes les guidelines, tu as toutes tes codes couleurs et tout. Donc, ton appli et ton site internet utilisent le même branding. Et donc, si ça change, et bah, en fait, ça sera automatiquement mis à jour sur le site et sur l'applicatif. Et ouais. Si tu as un package qui génère tes emails, tout, bah en fait, tout sera mis à jour automatiquement. Donc, il y a aussi un intérêt pour les designers d'utiliser, en tout cas pour le CTO, on va dire, chef de projet, de tout centraliser parce que le designer va pouvoir aussi mettre à jour tout et toutes les applicatives vont hériter du même design.
Oui, pour partager, ouais, ça peut être pas mal pour partager le CSS, tout ça. Ouais. Quand tu fais un storybook où tu as le CSS dedans et puis après tu vas le partager, tu intègres tes components, ouais, c'est pas mal. On avait aussi, je sais pas si tu te souviens, on avait eu un invité sur une techno qui permettait de partager des components. Comment ça s'appelait ça? Je me souviens
Bit.
Plus. Mais... Ouais, c'est ça, Bit. C'était un peu, bah ça, ouais, c'était pratique ça. C'est pour le coup, justement, c'était à l'époque où on parlait pas trop de monorepo et ça permettait justement de partager des components entre différents repos. C'était synchronisé à un endroit chez Bit et puis après ça partageait entre tes différents projets. Donc tu vois, comme quoi tu peux te passer de Bit en faisant un monorepo éventuellement.
Ouais, mais c'est exactement ça. Après, je pense qu'il y a une certaine maturité sur cet écosystème. Peut-être qu'avant, c'était hyper compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ouais. C'est devenu pas un standard, mais quasi, beaucoup de projets utilisent de plus en plus de monorepo parce que tout le monde y voit le bénéfice, quoi. Clairement, enfin, moi, pour le coup, là, sur ma toute petite expérience, j'ai 5 applicatifs totalement différents. Chacun hérite en fait des mêmes dépendances quasiment. Par contre, c'est dans deux vraiment dans des univers différents. Tout est fait en Nuxt. Bon, ben voilà, je vais pas mettre 5 fois. Vas-y, il faut que je bump la version de Nuxt. Je le fais une seule fois. Tout est hérité automatiquement et le code branding est identique. Les typages, pareil. Et donc c'est vachement plus confort.
Ouais, ouais.
Mais moi ah, ça bah, me fait pareil, gagner un temps, ça me fait gagner un temps de ma boule. Et surtout, demain quelqu'un arrive sur le projet, il a tout quoi, il a tout.
Ouais, ouais. Ah, moi c'est pareil hein. Sur tous les projets où j'ai fait en monorepo, je reviendrai pas en arrière clairement. Et même sur des projets où on avait deux technos comme le PHP et le JS, je reviendrai pas en arrière du tout parce que c'est tellement plus simple à gérer. Tu push et puis voilà, ça part en prod. Et puis derrière, on avait quand même mis un système, tu vois, quand ça déployait le PHP d'un côté et le JS de l'autre, en fait, on avait mis un système qui faisait que s'il n'y avait pas de modif sur le PHP, ça ne déployait pas le PHP ou inversement, ça déployait pas le JS, ça détectait s'il y avait vraiment du changement ou pas pour éviter des déploiements inutiles. Après, voilà, il y a plein d'outils, on va y venir de toute façon, mais non, je ne reviendrai pas en arrière sur tous les projets en monorepo qu'on a fait parce que ça simplifie beaucoup les choses entre les devs, en fait, entre plusieurs devs qui bossent ensemble, tout ça.
Ah, clairement. C'est vraiment ouais, c'est un confort, c'est un confort, c'est ouais. ça nécessite un petit shift en termes d'organisation et de voilà de structure, mais au final tu y gagnes quand même pas mal. Juste avant de partir sur les tools, on a trouvé en fait un site assez pédagogique qui en fait qui s'appelle monorepo.tools. Évidemment, on mettra les liens dans la description.
Ouais,
qui est en fait hyper didactique et qui explique pourquoi les monorepos, les bénéfices, pourquoi c'est intéressant. Pour le coup, ça se lit super bien. C'est pas du tout verbeux. C'est beaucoup imagé avec des images, des schémas où on comprend justement cette idée de modularité, de package ou d'app qu'on va réutiliser.
Remonte un peu là, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est monorepo n'est pas égal à monolithique, c'est marqué juste là.
Ouais, c'est vraiment deux choses. Là pour le coup, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Sur une approche monolithique et monorepo, c'est deux choses totalement différentes. Une qui est sur la code base et l'autre, c'est sur les instances. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Mais pour le coup, voilà, ça se lit hyper rapidement, hyper facilement. C'est vraiment optimisé. Et on comprend beaucoup de choses. Et justement, en fait, il note en fait les différences entre les outils. Cet outil fait de la parallélisation de tâches. Cet outil va pouvoir va pouvoir exécuter des tâches bien spécifiques. Et donc, pour le coup, c'est assez facile en fait de faire son choix à l'issue en fait de cette lecture-là, parce que on voit de quoi on a besoin. Si est-ce qu'on a besoin en fait de détecter en fait le changement dans les packages, est-ce qu'on a besoin de cette fonctionnalité-là? Quel outil le gère? L'outil que je pensais ne le gère pas. Est-ce que j'ai besoin de cette fonctionnalité-là? Oui, non. Voilà, c'est pas... Et donc, c'est assez didactique et c'est hyper, hyper bien fait. C'est facile à lire. Mmh. Et on comprend vraiment bien, en fait, l'importance de tous ces outils-là.
Ouais, donc, il est bien
monorepo.tools. Super sympa. Alors, un des outils les plus anciens et qui est le plus utilisé, on en a parlé tout à l'heure, c'est Bazel, parce qu'il est utilisé par une petite boîte qui s'appelle Google. Et apparemment, c'est ce qu'ils utilisent pour builder en fait tout leur applicatif et tout leur système. Ça gère du multilangue. Et c'est là du multilangage, donc avec les différents environnements, tout. Là, pour le coup, c'est quand même super solide parce qu'il faut gérer différents univers et différents environnements, quoi.
Ouais, puis ça doit être énorme, la code base Google.
Ouais,
je pense que ça doit être un des principaux contributeurs, peut-être Google, sur cet outil open source, la Bazel.
je sais même pas, il faudrait aller regarder... Sur le GitHub si c'est open source, mais oui, je pense qu'il y a des mecs qui sont dédiés à ça et qui ne font que ça, quoi.
Les mecs, faut que ça tienne le coup. On l'utilise, faut le faire durer.
clairement tout est basé là-dessus. Dans l'écosystème JS, il y a TurboRepo qui est poussé par Vercel, qui est très connu et très mis en avant. Après, on connaît tous le marketing de Vercel, où ils sont très très bons sur le marketing. Ils ont réussi à pousser ça. Pour le coup, sur l'écosystème JS, ça fait vraiment le taf. La doc est super bien faite. Une fois de plus, ouais. En fait, si vous avez pour projet de passer sur des monorepos, prenez le temps de lire la doc. C'est, là, pour le coup, c'est que de la config, donc c'est primordial. Sans ça, en fait, vous allez perdre beaucoup de bénéfices et surtout, vous allez réinventer la roue potentiellement. Alors que si vous utilisez bien ces solutions ou tous ces outils de monorepo, en fait, ça va vous enlever de la charge de travail. Donc, c'est vraiment ouais. intéressant. D'où l'intérêt, en fait, de vraiment, vraiment bien utiliser et de bien respecter les conventions. Sinon, ça va beaucoup moins marcher. Avec les deux possibilités sur ce turbo repo de soit partir de scratch, c'est-à-dire on instancie un nouveau projet, ou en fait de rajouter turbo repo sur un projet existant. Voilà, il y a les deux approches avec tout ce que ça implique en termes de migration de code, quoi.
Bah toi tu l'as utilisé celui-là. L'avantage principal, c'est je sais que c'est la vitesse, donc il parle de cache. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça met en cache en fait. Au niveau d'un serveur externe, et après quand quelqu'un récupère le projet et va rebuilder en dev machin tout ça, ça réutilise ce cache, donc tu as une vitesse de compilation ultra rapide en fait. C'est ça un peu le principe, enfin l'avantage principal de Turbo Repo.
Alors c'est alors l'avantage principal, non, c'est déjà que c'est que tout est centralisé, donc on va pouvoir configurer toutes tes tâches tous tes applicatifs vont être splittés, tes apps, tes packages, tes types, tes linters, tout ça vont être centralisés et effectivement tu vas pouvoir en fait déployer et recompiler uniquement ce que tu as besoin, ce qui t'évite en fait de faire tourner ta machine de build ou de stage pour pas grand chose, quoi. Donc après Vercel c'est bien, mais t'es pas obligé d'utiliser le cache de chez Vercel pour ton applicatif. Tu peux utiliser leur cache même si tu ne buildes pas chez eux. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux, t'as un espace en fait où tu vas stocker tous tes artefacts d'instance, et en fait tu peux les utiliser si par exemple tu as ton build qui est sur ta GitHub Action par exemple. Tu veux récupérer ton cache, ton build de cache de tous tes packages qui n'ont pas évolué, mais tu as juste fait des modifications sur ton applicatif, mais cet applicatif hérite de 3 ou 4 packages. Si tes packages sont déjà buildés et sont uploadés sur ton cache, au moment de ton build de ton applicatif, tu vas hériter de tous ces builds, ce qui va te faire gagner du temps en termes de build. Et en fait, c'est le gros, gros avantage qui est mis en valeur, c'est justement cette optimisation du cache, parce que tu vas économiser de la ressource machine, quoi. Après, faut pas se leurrer. Si Vercel a poussé ça,
c'est pour aussi. Eux aussi. C'est pour de l'argent.
Ouais. Parce que ta machine, elle tourne moins. Dis-moi.
Le cache qu'ils vont stocker chez eux, en fait, il te faut quand même un compte Vercel, j'imagine.
Bien sûr.
D'accord, c'est pas gratos. Enfin, si, tu peux avoir un compte gratuit, mais.
Oui.
Et après, tu peux mettre ton propre serveur pour stocker le cache ou non?
J'ai pas testé. Si tu peux mettre ton propre CDN pour stocker le cache. Pour le coup, ils disent plutôt l'inverse. C'est-à-dire, t'es pas obligé de builder de chez nous. T'es pas obligé de stocker, de builder et de hoster ton site chez nous. Par contre, tu peux utiliser notre cache. C'est possible. Donc, il faut juste des tokens, ce qui fait que même sur ton GitHub Action ou sur ton ordi, tu vas pouvoir en fait builder Et s'il a déjà caché le truc, bah, tu vas le récupérer ton cache. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Quand tu builds en local, en fait, bah, s'il l'a déjà buildé, il va directement. Voilà, il utilise le commit. Et donc, en fait, il dit OK, bah, il n'y a pas eu de modification sur ce package-là. Ça a déjà été buildé à telle heure, depuis tel commit. Bah, on peut réutiliser cette version-là, ça passe. Je crois que sous le capot, c'est du Rust, je crois, mais je ne suis pas sûr.
Ouais, je crois. Ouais. Forcément, pas, si c'est rapide.
Pas sûr. mais donc, dans l'idée, tu vois, c'est
intéressant. Si tu as des tests automatiques dès que tu déploies, si ça utilise le cache, tu gagnes encore à ce niveau-là, au niveau de la vitesse.
Mais ouais.
Bien sûr. Plus vite.
Ben ouais, parce que en fait, ouais, toute ta phase de test, t'es obligé de builder. Ce build-là, bah, si t'as 2 ou 3, 4 devs qui l'ont déjà buildé sur leur machine, bah, ça sert à rien de le relancer. Il est déjà synchronisé. Donc tes tests vont plus vite. Donc ta CDCI va plus vite. Donc tu peux. Voilà, c'est tout un écosystème qui va beaucoup 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 plus vite, quoi.
Ok, ça c'est pas mal, ça.
Donc pour le coup, toujours sur Turbo Repo, tu vas avoir en fait des guides qui vont te permettre en fait d'intégrer dans n'importe quel framework, et pareil pour tous tes outils en fait. Tu veux mettre ton TypeScript, bah, ils vont vraiment t'expliquer comment tu peux mutualiser, comment tu peux synchroniser, pareil pour tes tests, vitest et tout ça. Donc pour le coup, la doc est plutôt bien faite, même s'il y a, allez, je vais être un peu taquin, mais toute cette optimisation de je build pas si l'application si je build pas cet applicatif, si j'ai pas déployé ou modifié quelque chose dans la codebase, ça c'est un peu touchy chez Vercel, donc il faut vraiment poncer un peu le truc. T'as des commandes qui sont un petit peu compliquées à que tu trouves pas tout de suite, parce que eux, par principe, bah, tu build automatiquement, voilà, ça fait partie de leur business. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait partie de leur business model, et donc voilà, ils vont te croquer en fait des minutes de build, et surtout moi ça me prend taquet de temps. Et aujourd'hui j'en suis arrivé où je build tout en local, si tu veux, tu vois, et c'est tellement plus rapide. C'est tellement plus rapide. Mais j'ai l'avantage aussi, c'est que y a pas grand monde sur mon repo, il y a que moi sur mon repo. Par contre, j'ai structuré les choses de telle manière, si demain on est plusieurs, il y a aucun problème. Et donc je me suis imposé cette rigueur là de bosser comme si j'étais en équipe, et comme, parce que demain en fait j'aurais pas à refacto, quoi. Ça sera déjà tout centralisé, il y aura déjà accès à tout, et tout sera prêt en fait à gérer en mode équipe, même si je suis tout seul. Et donc voilà, mais ça
Ok. Vite fait, sur le gestionnaire de package, on a parlé tout à l'heure de PNPM avec les catalogues, là, tout ça. Les workspaces, je sais qu'Yarn gère les workspaces. NPM, normalement, aussi. Ben, il me semble aussi. Ils le gèrent tous, en fait.
Oui. Ils le gèrent tous. Et pour le coup, c'est... En fait, ça va un peu de pair, quoi. Tu peux pas faire du monorepo si tu n'utilises pas un gestionnaire de package ou sur lequel tu vas créer tes workspaces. Ça n'a pas de sens. Pour le coup, si vous faites du front, aujourd'hui, tous en fait le font. Même NPM en fait a rattrapé son retard. Je crois que le premier qui l'a fait, c'était Yarn. Après il y a eu PNPM, et maintenant en fait c'est natif dans chez Bun tout, donc pour le coup c'est la même chose. Un autre outil de monorepo s'appelle NX, Ça va faire exactement la même chose. Je ne sais pas si il est multilangage ou pas, ou il est que sur du JavaScript. Pour le coup, j'ai pas fait. Mais en fait, il va y avoir tout un écosystème, pareil, de build. Y a une solution cloud qui va vous permettre en fait de pouvoir gérer tous ces monorepos et de toute cette phase de build pour optimiser en fait toute cette base de build et donc de test et de tout ce qui va derrière et de mutualisation. Pareil, c'est toujours des systèmes qui sont assez complexes à mettre en place au départ, mais une fois que c'est mis en place, il y a un réel bénéfice, surtout si on est en équipe et surtout plus le projet est gros. Bah plus on va récupérer le bénéfice et toute cette mutualisation, hein, clairement.
Ouais, carrément. Ouais, ok. Bah, cool.
Nice. Et donc, c'est les monorepos.
Monorepo, c'est la vie.
Ouais, après,
Non.
est-ce que c'est intéressant de passer sur des monorepos? Je pense qu'il faut se poser la question dès le départ.
Ouais.
Est-ce que je vais avoir de la mutualisation? Est-ce que je vais avoir des grosses évolutions? Est-ce que je suis sur du même langage? Est-ce que je vais mettre une CD/CI? Est-ce que je vais avoir beaucoup de développeurs qui vont intervenir? Voilà, toutes ces questions-là sont à prendre en compte pour décider si on passe sur un monorepo ou pas. Clairement, je pense que sur des projets un peu conséquents, ça peut très très vite amener plus de solutions que de problèmes. En clair, ça résout plus de problèmes que ça n'en amène. Et donc, à première vue, comme ça me paraisserait intéressant de se pencher et au moins d'étudier la question pour voir si on pourrait pas gagner en sérénité. Parce que le but d'un développeur, c'est de pousser sa feature de manière hyper serein, parce qu'elle a été revue, elle a été testée, elle a été buildée, elle a été. On évite de faire 50 fois la même chose. Et donc, tout cet écosystème nous permet de faire ça. Donc c'est là où c'est intéressant, donc il faut se pencher là-dessus,
Yes. Ouais,
tester.
bah dites-nous dans nos commentaires si vous êtes monorepo ou pas, si vous avez déjà fait des projets en monorepo, si c'est bien, si vous avez voilà des retours d'expérience, tout ça. Toujours intéressant d'avoir les commentaires. Donc n'hésitez pas.
Et on vous remercie d'être resté jusqu'au bout de l'épisode, et puis on vous
Yes.
dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao!
Ouais, ça marche. Ciao, à plus.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.